Nous parcourons donc à grands pas une histoire des relations entre la beauté et la vérité. Puisque certains sont nouveaux ce soir, et je les accueille très volontiers, de manière extrêmement succincte, je rappelle ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, que nous avons bien pointé avec, je crois, la lecture de Kant, c'est l'émergence de ce que l'on appelle la modernité. Je rappelle que ce que l'on appelle la modernité, c'est au XVIIe siècle la décision d'un certain nombre de grands esprits de traiter la nature comme un mécanisme que l'on peut mesurer, des rapports de force que l'on peut analyser. On peut analyser la réalité en procédant du complexe au simple et en partant des éléments les plus simples. Et ces éléments les plus simples nous permettent de penser un rapport de causalité linéaire. Et ce rapport de causalité linéaire permet des calculs, c'est-à-dire si je fais varier la cause, je fais varier l'effet. Ceci nous donne un principe d'intelligibilité du réel et ceci nous donne aussi tous les moyens de notre puissance sur le réel. Parce que si je fais varier la cause, je fais varier l'effet, c'est aussi le levier de toutes les puissances sur le réel, puisque c'est le levier de la technique. Et donc la modernité voit l'apparition simultanée de ce que nous appelons la science, qui naît il y a seulement 3 siècles, et de la technique sur le modèle donc, de ce que nous appelons le mécanisme, c'est-à-dire l'assimilation de la nature à une machine faite de rouages, de poulies, de rapports de force. Si bien que la modernité est caractérisée par une distinction forte, soulignée, entre le règne de la nature, soumis à la causalité, et le règne de l'esprit, qui est celui de la liberté. Avec des interrogations sur « mais que fait donc, que fait diable, une liberté dans le règne du déterminisme ? Comment y est-elle tombée ?» Enfin, elle y est. Et la question rejaillit inévitablement sur la place de la beauté et dans son rapport à la vérité. En effet, ce monde, compris à travers un modèle mécaniste, est dépouillé de ses qualités, puisqu'on le traite selon l'ordre de la quantité. Et donc, ce monde ne nous interrogera plus en tant qu'il est beau. La vérité de ce monde, faite de rouages et de poulies, n'éveille en rien un sentiment de beauté, sinon éventuellement une beauté industrielle. Par exemple, Spinoza n'hésite pas à dire que l'amant qui contemple la beauté de la main de sa maîtresse ne verrait pas cette main aussi belle s'il en voyait le squelette, les vaisseaux, les nerfs, les tendons, etc. La vérité, à ce moment-là, change également de signification, car la vérité n'est plus évidemment la conformité de l'esprit et de la réalité, du jugement et de la chose, mais la conformité de l'esprit avec lui-même. Souci de cohérence, conformité de l'esprit avec lui-même, règle de l'évidence, conformité de l'esprit avec lui-même, intuition, etc. Si bien que, alors que Platon, Saint-Augustin, que nous avons parcouru lors des étapes précédentes, donnent à l'art une place assez mineure, puisque pour eux, le sens de la beauté est un éveil au sens de la vérité, est une initiation au sens de la vérité, nous donne le goût de la vérité. Au contraire, si ce monde est, pour reprendre une formule qui a été, mais à juste titre, assez souvent répétée, si ce monde est désenchanté, alors l'art prend une fonction suréminente. Parce qu'il aurait pour mission de réenchanter un monde devenu silencieux. de réenchanter un monde assimilé donc à un rapport tout mécanique de cause et d'effet. D'ailleurs, c'est ce que dit Spinoza à propos de la main de la maîtresse, la beauté est un effet. Et donc il faut produire des effets, et le rôle de l'art sera alors de produire de tels effets qui ne sont pas nécessairement ceux que le donné et le réel donc, nous permettent de rencontrer. Nous rentrons donc avec Hegel dans ce temps où la question de la beauté va devenir celle de l'art, ce qui n'était pas du tout le cas pour Platon, pour Augustin, et ni même pour Kant. Et pourquoi la question de la beauté devient-elle celle de l'art ? Parce qu'au fond, dans un monde réduit au silence et interprété comme un ensemble de rouages, eh bien, c'est peut-être la mission de l'art que de faire naître une beauté, de susciter une beauté, d'imaginer, de créer. Alors on va se mettre à parler de création, d'imagination, puisque il ne suffira plus de regarder. Il ne suffira plus de contempler, il ne suffira plus d'être attentif. Mais l'initiative de l'esprit confronté à une nature réduite à un mécanisme sera dans la génialité. Nous l'avons vu, pour ceux qui étaient là, avec l'émergence de la figure du génie chez Kant. Et donc l'artiste va être investi d'une mission exceptionnelle, ce qui était très très loin d'être le cas jusqu'au XVIe siècle, et bien, même bien après, donc, où les artistes se considéraient comme des artisans et ne prétendaient pas signer leurs œuvres et ne prétendaient surtout pas s'exprimer. Comment voulez-vous que celui qui faisait un tympan dans une cathédrale veuille s'exprimer ? Mais on s'en fout, franchement, de ses impressions, de ses amours déçus, de sa feuille de température. Et puis voilà que, puisque le monde est silencieux, il va falloir que quelqu'un s'exprime dans ce monde. Et celui qui va avoir pour mission de s'exprimer et de faire naître une parole de ses marionnettes, eh bien, ça sera donc le génie qui va refaire naître une nature enchanteresse alors que celle-ci est inhabitée et donc va faire naître des vivants à partir de ces cadavres. Telle est la mission du génie, telle est la mission de l'art dont il se voit investi dans l'époque romantique, donc c'est la mission prophétique de l'artiste, prêtre, prophète, etc. Et de telle sorte que la manifestation donc, de la beauté sera prioritairement l'œuvre de l'art, sera prioritairement exprimée par la génialité, le regard, la créativité de l'artiste. Et c'est le point sur lequel donc, Hegel va nous permettre d'insister sur le fait que la question de la beauté est en fait celle de l'art, car il y a plus de beauté dans l'art que dans la réalité naturelle la plus simple. On peut se rappeler la phrase méprisante de Baudelaire à propos de la nature, parlant des légumes sanctifiés. Et donc si la poésie de Baudelaire est une poésie de citadins et faite de paradis artificiels, c'est parce que Baudelaire vomit les légumes sanctifiés, qui seraient donc cette expression d'une beauté du monde, une expression de beauté de la nature. Nous aurons, et donc c'est avec Baudelaire qu'on a des fleurs du mal, c'est-à-dire une séparation du vrai, du beau et du bien. Avec Baudelaire et bien d'autres. Que le mal puisse produire des fleurs, que le mal puisse produire du beau, que le mal puisse produire du bien, voilà quelque chose qui devrait nous étonner, et vous ne comprendrez rien à la question de l'esthétique si vous ne vous en étonnez pas. S'il y a parmi vous des gens que la formule « fleur du mal » n'étonne pas, qu'ils partent. car vous n'êtes pas en disposition d'écouter les conférences, celles de ce soir et celles qui vont suivre. La philosophie de l'esthétique de Hegel est exprimée dans un cours qu'il n'a pas rédigé. Nous avons les notes de ses élèves qu'en certaines pages il a revues. Donc on a un cours d'esthétique de Hegel qui, selon les éditions, fait 4 ou 5 volumes. Et puis, si vous voulez y avoir accès, vous pouvez vous contenter des extraits qui sont donnés aux presses universitaires de France. Vous voyez que c'est beaucoup plus réduit, c'est avec ça que nous allons travailler ce soir, et qui donne l'essentiel de cet enseignement, qui est un enseignement, donc, pour s'exprimer simplement, achromatique, comme disent les gens. C'est-à-dire qui n'est pas rédigé par le professeur lui-même, mais à partir de notes. Je développerai mon exposé en 3 points. Le premier point, j'expliquerai en quoi, selon Hegel, la question de la beauté est la question de l'art et comment cette question de la beauté ne se pose que dans et par l'activité de l'art. Mais, deuxième point, si cet art est une activité humaine, toute humaine, alors, comme toute activité humaine, il a une histoire. Donc, une partie de l'esthétique sera, à partir de cette époque-là, consacrée à une histoire de l'art. Y a-t-il une histoire de la beauté ? Il y a une histoire de la perception de la beauté, du vécu de la beauté, du ressenti de la beauté, comme disent nos contemporains. Mais une histoire à proprement parler ne concerne que l'activité humaine, et donc on va s'inscrire dans une histoire de l'art, et avec la génialité qui est la sienne, dont j'espère vous faire partager l'admiration, Hegel va nous présenter donc les avenues somptueuses de cette histoire de l'art. Oui, mais, troisième partie, ce qui a une histoire a une fin. Il n'y a pas d'histoire sans fin. Si bien que, et je crois que ça sera la partie la moins inintéressante de cet exposé, si bien que si on s'attache à la question de l'histoire de l'art, il faut aussi considérer quelle est la fin de l'art, c'est-à-dire comment l'art fini, meurt. Et comment nous pouvons considérer, aux yeux de Hegel, que nous y sommes. Alors, le cours de Hegel se déroule dans les années 1830, entre Heidelberg et Berlin. Alors, nous arrivons donc bientôt 200 ans plus tard, 185 ans plus tard. Donc 185 ans après la mort de l'art, peut-on tirer le même constat de décès? Si vous voulez le savoir, il faut rester jusqu'à la fin. Premièrement, donc, la beauté dans l'art, le fait que, à proprement parler, la question de l'esthétique pour Hegel, c'est celle de la création artistique. Dès les premières pages, page 7, il est permis de soutenir dès maintenant que le beau artistique est plus élevé que le beau dans la nature. Car la beauté artistique est la beauté née comme deux fois dans l'esprit. La beauté artistique est née peut-être de l'expérience que je fais de la nature, mais elle est née une deuxième fois par l'œuvre de l'esprit qui répond à cette rencontre d'un donné, et si bien que la beauté artistique est plus élevée parce qu'elle est précisément une œuvre de l'esprit et non pas de la nature. C'est pourquoi il fallait qu'on prenne un peu de temps pour se rappeler la crise moderniste et la distinction radicale de l'esprit et de la nature. Une nature sans esprit, un esprit sans nature. Je relis. Il est permis de soutenir dès maintenant que le beau artistique est plus élevé que le beau dans la nature. Car la beauté artistique est la beauté née et comme deux fois née de l'esprit. Or, autant l'esprit et ses créations sont plus élevés que la nature et ses manifestations, autant le beau artistique est lui aussi plus élevé que la beauté de la nature. Même, abstraction faite du contenu, une mauvaise idée, comme il nous en passe par la tête, est plus élevée que n'importe quel produit naturel. Car dans une telle idée sont toujours présents et l'esprit et la liberté. Il y a plus de sens dans un clou rouillé que dans un légume. Car dans un clou rouillé, il y a la vie de l'esprit, l'audace de l'esprit, l'œuvre de l'esprit. Le clou rouillé est une expérience que je fais de la grandeur de la liberté. Le légume retournera sans silence. Et voilà pourquoi donc il est important de penser que si l'on veut parler de beauté, il faut en parler dans le cadre de l'art, dans la mesure où la question de la beauté est une question qui se pose à nous en tant que nous sommes des êtres d'esprit, c'est-à-dire que nous interrogeons la nature, et non pas en tant que nous sommes des êtres de nature. En tant que nous sommes des êtres de nature, la question de la beauté ne se pose pas pour nous. Je ne sais pas comment elle se pose pour l'escargot et pour le chou-fleur. Si la question de la beauté se pose pour nous, c'est en tant que nous sommes des êtres d'esprit, et donc c'est l'expérience de l'esprit qu'il faut écouter, et non pas se pencher sur les harmonies naturelles. Que fait l'esprit quand il fait œuvre? Alors, il va falloir faire un peu de philosophie, vous êtes venus pour ça. Il va falloir se demander qu'est-ce que c'est qu'un esprit. Rien de plus facile. Et esprit, ce qui se voit confier sa propre découverte. Et esprit, ce qui existe dans le cheminement de la découverte de soi. Le donné est tel qu'il est. Il est ce qu'il est. Les choses sont ce qu'elles sont, disent les abrutis. Parfois ils ajoutent, c'est comme ça et pas autrement. Alors que l'esprit, il est précisément son devenir. Il existe dans la découverte de soi. C'est une autre manière de dire qu'il est liberté. Puisque exister dans la découverte de soi et se voir confier l'avènement de soi-même, c'est précisément cela, être libre. Donc on comprend mieux la distinction que j'ai esquissée de manière rapide et brutale entre l'ordre de la nature, qui est tout ce qu'elle est, et l'ordre de l'esprit, qui est tout ce qu'il devient. Et l'esprit, c'est ce qui, dans la régularité des choses introduit l'aventure et dans la répétition des choses introduit la temporalité. Geist ist Zeit. L'esprit est temps. L'esprit est temps, c'est-à-dire qu'il n'y a de temps que par l'esprit. L'esprit est temps dans la mesure où il est esprit, celui qui a à se découvrir lui-même. Et cela s'appelle liberté. Ce mouvement de l'esprit, il est bien connu que Hegel le décrit comme dialectique. Dialectique, je rappelle, signifie dialogue et signifie que le vrai chemine dans la contradiction, par la contradiction, à travers la contradiction. Et cette dialectique de Hegel est relativement facile à comprendre. C'est la dialectique donc de la nature et de l'esprit. Soit un esprit. On peut supposer que cet esprit, en tant qu'il est né, il est nature. Nature et naissance, c'est la même racine. Je suis né le 12 mai 1925, je n'ai pas choisi, de sexe masculin, je n'ai pas choisi, et donc c'est ma nature. Je suis né d'ailleurs doté d'un certain nombre de propriétés, plus ou moins avantageuses. Évidemment, à mesure que le sujet va se déployer, il prend conscience de lui-même. Quand le sujet prend conscience de lui-même, il se met à distance de lui-même. Première étape, la nature. On l'appellera en soi. An sich. La nature, c'est ce qui est en soi. La nature est tout entière contenue en soi. Elle est dans ses limites. C'est pour ça que les chiens ne peuvent pas jouer au poker parce qu'ils remuent la queue quand ils ont un bon jet. La nature est tout entière comprise en soi. La conscience de soi est séparation de soi. Je me connais, je prends conscience de moi. Cette deuxième étape de la dialectique, c'est ce qu'on appelle le pour soi. Für sich. En soi, pour soi. Cette deuxième étape du mouvement comporte une négation, comporte une mise à distance, un conflit, une lutte. Si je n'avais jamais lutté, je resterais un légume comme je l'étais enfant. Mais toute ma vie, j'ai lutté, ne serait-ce que pour apprendre à marcher, pour apprendre à jouer du piano, ce que je n'ai jamais appris, pour apprendre à faire de la philosophie, pour être là ce soir. La conscience ne cesse de se surmonter elle-même dans son histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire ? C'est tous les mouvements par lesquels je me surmonte moi-même. Et je me réalise en me surmontant moi-même. Für sich, pour soi. Le sujet n'est pour soi que pour autant qu'il se sépare de soi. On est tous passés par là. Oui, mais le bonheur et la liberté. La liberté, c'est effectivement que ce sujet qui est conflictuel, qui se bat, qui se met à distance de lui-même, se sépare de lui-même pour se connaître, il va falloir qu'il trouve l'adéquation entre sa nature et lui-même, qu'il se réconcilie en quelque sorte avec sa naissance. Et qu'au lieu de traiter sa vie comme s'il y était étranger, il revienne chez soi. An sich, für sich, bei sich. En soi, pour soi, chez soi. Qu'est-ce que c'est que être libre ? Ça, c'est une philosophie typiquement allemande. Qu'est-ce que c'est que être libre ? C'est être bei sich, c'est être chez soi. C'est-à-dire que l'hostilité du donné serait levée. Le donné cesserait de m'être étranger, cesserait de m'être hostile, de m'être dangereux même, comme en un jardin. Et à ce moment-là, je suis chez moi. Je suis en moi. Si je vous ai appris que cela ce soir, je vous ai appris toute la philosophie. Je suis en moi comme enveloppé dans mes possibilités. Ces possibilités, pour que je les réalise, il faut que je m'arrache. Arrache-toi, petit gars. Il faut que je me sépare de moi-même. Mais se séparer de moi-même, c'est un combat, c'est une lutte, c'est dur. Il faut y aller. Mais quel est l'objectif ? C'est de se réunir à soi et d'arriver à être chez soi, à être en paix avec soi. Et donc, est esprit celui qui a affaire à ce mouvement, celui qui doit réaliser ce mouvement. Hegel, au début de l'esthétique, prend un exemple qui, je crois, devrait vous parler. Voilà, il demande comment l'homme prend-il conscience de lui-même, c'est-à-dire comment est-il esprit ? Et il dit, donc ce que je viens d'expliquer, il ne prend conscience de lui-même qu'en sortant de lui-même. Et il prend un exemple qui est familier et aisément compréhensible, c'est ce que fait un enfant quand il jette des cailloux dans l'eau. Pourquoi un enfant jette-t-il des cailloux dans l'eau ? Eh bien, pour reconnaître dans le monde la trace de sa propre action. En jetant des cailloux dans l'eau, il fait deux choses. Il se sépare de lui-même. On connaît tous des enfants autistes ou enfermés en eux-mêmes qui n'arrivent pas à faire ce geste de se séparer de soi, de faire un dessin, de modeler quelque chose. Lui, il jette un caillou dans l'eau. Il est capable de se séparer d'eux. Et jetant un caillou dans l'eau, il fait une deuxième chose. Il reconnaît son action sur l'eau à travers les ondes concentriques dessinées sur l'eau. Et à ce moment-là, à travers ces ondes concentriques dessinées sur l'eau, il fait du monde un monde sien. Il devient, pour ainsi dire, propriétaire de ce monde. Et c'est par la marque qu'il imprime sur ce monde qu'il peut s'y connaître. Il serait resté face à l'eau immobile, il ne se serait jamais appris lui-même. Il ne s'apprend lui-même que par la marque qu'il va imprimer sur cette eau. Se séparant de lui-même et pouvant revenir à lui-même par cette conscience qu'il prend de soi à travers son acte. Cela s'appelle la dialectique. An sich, für sich, bei sich. En soi, pour soi, chez soi. Bien. Alors, pratiquement, l'exposé est terminé. Parce que vous pouvez dérouler toute la suite. C'est-à-dire que toute la compréhension de l'art peut procéder de cette distinction. Allons-y. On va le faire, bien que vous ayez pris un temps d'avance. J'insiste quand même sur une autre distinction que l'on peut faire, où on peut dire, je passe plus vite, il y a un premier temps de l'esprit qui est intuition. L'intuition, Hegel dit, tout est vrai dans l'intuition, mais elle ne se connaît pas elle-même. Pour se connaître elle-même, il faut qu'elle se sépare d'elle-même, il faut qu'elle se formule. Sinon, je peux dire, je ne le sens pas comme ça. Moi qui suis... plaisanterie 5 minutes, mais vous oublierez, je vous le demande. Moi, j'ai toute ma vie été professeur de philosophie avec bonheur. Et alors, j'ai eu le bonheur toute ma vie d'avoir en face de moi des gamins de 16-17 ans qui me regardaient avec l'air de dire, c'est plus compliqué que ça. Ben oui, c'est plus compliqué que ça. Et donc, ils pensaient, mais tout est dans tout. Donc, moi, je faisais des efforts pour distinguer joie et plaisir. Je disais, c'est plus compliqué que ça, tout est dans tout. Oui, tout est dans tout, mais quand tout est dans tout, on n'y comprend rien. Et donc, il faut bien, à un moment, distinguer joie et plaisir, jour et nuit, dessus et dessous. Donc, tout est dans l'intuition, mais il faut que l'intuition soit cassée. Et toutes les pensées mystico-gélatineuses qu'on nous bassine toute la journée, tout est dans l'intuition, je ne le sens pas comme ça, viennent de ce malentendu qui fait qu'on ne comprend pas que, bien sûr, tout est dans tout, mais il y a un moment où il faut parler. Et dès que je parle, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je distingue, je me sépare de moi-même. Il faut que je m'exprime. Et jamais s'exprimer n'a consisté à parler de soi. Je ne peux pas y penser sans colère. J'avoue. S'exprimer, c'est sortir de soi. Et par cet acte d'expression, se livrer à s'exposer, se livrer à l'objectivité, se séparer de soi, en espérant à travers cette expression se comprendre enfin et revenir à soi. Le jour où l'expression sera juste. Je dirais, oui, l'expression était juste, c'est ça que je voulais dire. Mais à ce moment-là, elle aura été formulée. Et le sujet aura pu être chez soi dans cette expression. Telle est l'œuvre de l'art. Intuition, tout est dans tout, et inversement. Entendement, l'entendement, c'est l'œuvre de la séparation, l'œuvre des distinctions. Hegel dit très bellement l'entendement qui porte la mort, qui sépare toute chose. Plaisir, besoin, désir, etc. Et la raison qui permet de comprendre comment l'esprit est chez soi dans ce développement. Alors, quelle est la place de l'art là-dedans? Eh bien, il est aisé de le comprendre. L'art, en effet, est caractérisé par le fait que l'esprit y est encore quelque peu en soi. L'art ne passe pas par le concept, ne thématise pas, ne dégage pas des idées. Donc il n'a pas accès tout à fait à l'œuvre d'abstraction qui est celle de l'entendement. Toutefois, dans l'art, il y a bien une expression. Je ne reste pas dans le mutisme des légumes. Mais cette expression reste marquée par le sensible, reste marquée par le visible, l'audible, ce qui est objet des sens. Une idée n'est pas objet des sens. L'art est objet des sens. C'est sa caractéristique. Donc l'esprit y est en train de s'éveiller, en train de naître à travers la suscitation de formes sensibles. Comme l'enfant qui jette des cailloux sur l'eau, artiste à sa manière. Et on serait bien en peine de dire quelle est l'idée représentée par l'enfant qui jette des cailloux sur l'eau. Ça serait stupide de le traduire en idée. Et cependant, c'est déjà une œuvre de l'esprit. Et donc, dans l'activité de l'art, esprit et nature ne sont point encore tout à fait séparés. On est dans une genèse incoative, en train de naître de l'esprit. L'éveil de l'esprit dans le règne du sensible, à travers les sons, à travers les formes, à travers les couleurs. C'est déjà de l'esprit, puisqu'il y a déjà une œuvre. Mais ça n'est pas encore l'esprit dans sa plus haute abstraction, puisqu'il y a certes des idées dans l'art, mais il serait maladroit et stupide de les traduire en un dictionnaire. Donc voilà, celui qui trace une forme sur une surface, on voit l'esprit s'y éveiller. Il ne s'éveille pas sous la forme du concept. Il ne s'éveille pas sous la forme du dictionnaire, de l'idée ou de la philosophie. Cependant, ça n'est pas une œuvre de la nature. Alors, je sais, il y en a qui sortent des chiffons qui ont traîné dans un ruisseau pendant 25 ans. Mais enfin, bon, ils les ont quand même choisis. En cela, c'est des œuvres de l'esprit. Et même si je prends un galet et que je le mets sur ma table de salon, il devient une œuvre de l'esprit rien qu'en tant que je l'ai choisi. Je le fais sortir de son statut d'objet de la nature. Je lui donne une forme, même sans le modifier, du simple fait que ce galet, je le mets sur la table de mon salon. Et il devient une œuvre de l'esprit. Et qui parle sur cette table de salon? Bien sûr, le ruisseau où j'ai ramassé le galet, mais moi qui l'ai choisi. Et donc, dans l'œuvre d'art, il y a une concomitance spontanée, encore muette, de l'esprit et de la nature. Un accord du sensible et du spirituel. Le sensible, dit Hegel, doit être présent dans l'œuvre artistique. Mais avec cette restriction qu'il s'agit seulement de l'aspect superficiel, de l'apparence du sensible, l'esprit ne cherche pas en lui la matérialité concrète. Je ne me dis pas, tiens, ça bouchera un morceau de la fenêtre. La consistance et toute l'envergure d'un objet organique que réclame le désir, il n'y concerne pas non plus des objets universels idéaux. Je ne peux pas dire cela représente la transcendance ou cela représente les catégories. Non. Donc, quand je suis devant une œuvre, je ne peux ni la rapporter à son identité matérielle, par exemple, je vais m'en servir pour boucher un carreau, ni la rapporter à une idée que je traduirais en disant « ben voilà, c'est une expression de la transcendance ». Je ne suis ni dans la matière, ni dans l'idée, je suis dans le sensible, l'idée en train de naître. Je fais une erreur quand je crois que je suis dans la matière, c'est le statut de toutes les œuvres d'art, de toute expression artistique, du temps où j'avais le bonheur d'enseigner les lettres, je donnais comme commentaire de, il y en a peut-être, non, je donnais comme commentaire de texte souvent à une passante de Baudelaire. La rue assourdissante autour de moi hurlait, longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, une femme me passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet, agile et noble avec sa jambe de statue. Et j'ai trouvé un élève pour me dire, c'est étrange que Baudelaire trouve belle une femme avec une jambe de bois. Agile et noble avec sa jambe de statue. Car devant une métaphore, il y a deux manières de ne pas la comprendre. C'est de dire, c'est une jambe de bois, et de dire, c'est une idéalisation. Ça n'est ni une idéalisation, ni une jambe de bois, c'est une image. La fossile d'or dans le champ des étoiles, si vous dites la fossile d'or dans le champ des étoiles, vous vous appelez Victor Hugo, il y a deux erreurs à ne pas commettre, c'est de dire, c'est la lune, et c'est de dire, c'est une fossile. Ça n'est ni la fossile, ni la lune. Je suis exactement au mi-temps du sensible et de l'intelligible, dans une zone qui est forcément silencieuse. Puisque dès que je vais la dire, elle va passer dans l'intelligible. Et je dirais, ah ben c'est la lune. Ou alors je dirais, ben c'est une fossile, c'est bizarre que Victor Hugo ait mis une fossile dans le ciel. Mais celui qui dit, la fossile d'or dans le champ des étoiles, c'est la lune, il se trompe tout autant, parce que c'était pas la peine, si Victor Hugo voulait dire la lune, il n'avait qu'à le dire. Pourquoi il a dit la fossile d'or dans le champ des étoiles? Pour faire geler. Et donc, c'est inséparablement la lune et la fossile. C'est ce que disait Picasso, je suis à la recherche d'une boîte d'allumettes qui soit tout entière, chauve-souris. C'est pourquoi le sensible est élevé dans l'art à l'état de pure apparence, par opposition à la réalité immédiate. Donc vous voyez, on va opposer l'immédiat et le média. L'immédiat, c'est la chose donnée, le média, c'est la chose en tant que signe. Un signe, c'est une médiation. L'œuvre artistique, vous avez cette seule phrase à retenir, je la répéterai pour vous si vous voulez, l'œuvre artistique tient ainsi le milieu entre le sensible immédiat et la pensée pure. One more time. L'œuvre artistique tient ainsi le milieu entre le sensible immédiat, immédiat sans médiation, qui n'est que ce qu'il est. L'œuvre artistique tient ainsi le milieu entre le sensible immédiat et la pensée pure. Ça n'est pas encore de la pensée pure, mais ça n'est plus une réalité matérielle. Une statue, c'est plus un caillou, c'est pas encore une femme. Si tu voulais dire femme, tu n'avais qu'à écrire femme. Si tu as fait une statue, c'est que tu voulais un caillou. Mais cette statue n'est pas non plus un caillou. Donc il y a deux manières de se tromper, c'est de dire c'est un caillou et c'est de dire c'est une femme. Ce n'est pas encore de la pensée pure, mais en dépit de son caractère sensible, ça n'est plus une réalité matérielle comme sont les pierres, les plantes. Le sensible dans l'œuvre artistique participe de l'idée, mais à la différence des idées de la pensée pure, cet élément se manifeste extérieurement comme une chose, sur la modalité d'une chose, à la manière d'une chose. Ainsi, l'art est-il l'expression même de la beauté, en tant que la beauté, c'est donc la manifestation sensible de la vérité qui dégage la vérité des formes imparfaites de ce monde. Et donc, lorsque, je prends un exemple facile, lorsqu'un peintre fait un portrait, de ce portrait, il débarrasse les formes anecdotiques du donné. Peu nous importe de savoir si cette personne avait une verrue, une ride ou des yeux verrons. Quand le peintre fait le portrait, il veut nous montrer une idée. Mais s'il voulait nous montrer une idée, il n'avait qu'à faire de la philo. Or, il fait un portrait. Donc, il ne nous peint pas Mona Lisa. On s'en fiche de Mona Lisa. Mais il ne nous peint pas non plus une idée. Et donc, on est dans l'entre-deux. Et donc on voit le vrai en train de naître. On surprend le moment fascinant où le vrai est en train de prendre forme à partir de la réalité matérielle. Donc on peut dire que le peintre dégage l'universel sous l'anecdotique. La Joconde, c'est l'universel sous l'anecdotique, c'est la femme, c'est le mystère de la femme, c'est que sais-je. En tout cas, c'est pas Mona Lisa. C'est pas Madame Mona Lisa qui est particulièrement charmante. C'est l'œuvre de Léonard de Vinci. C'est Léonard de Vinci qu'on voit dans la Joconde. C'est pas Mona Lisa. Cependant, si Léonard de Vinci avait voulu représenter l'universel de la femme, il fallait qu'il fasse de la philo. La réalité sensible est particulière, l'idée est universelle, l'image nous met entre la réalité sensible particulière et l'idée universelle. Donc j'ai un oiseau particulier avec ses plumes et mortel. J'ai un oiseau figuré, un oiseau de Georges Braque. Et puis j'ai le concept d'oiseau. Qu'est-ce qui est plus universel ? Le concept d'oiseau. Il peut se traduire dans toutes les langues. Mais les images de Georges Braque nous sont comme intermédiaires donc, entre l'universalité de l'idée et la particularité du sensible. Voilà pourquoi on peut redire, apparemment à la manière de Platon, mais plus du tout selon le même esprit, que le beau est la manifestation de l'idée. Mais vous voyez toute la différence, c'est que le beau est la manifestation de l'idée et la splendeur du vrai chez Platon, parce que ce beau émane de l'idée que je contemple. Ici, ce beau, il émane de l'activité de l'esprit qui met au jour la vérité enclose dans la mutité de la chose, qui met au jour la vérité enclose dans la stupidité de la chose. Le vrai, c'est l'idée lorsqu'elle est considérée en elle-même dans son principe général. Ce n'est pas sous sa forme extérieure et sensible qu'elle existe, cette idée, mais dans son caractère d'idée universelle. La preuve, c'est qu'elle peut se traduire. Lorsque le vrai apparaît immédiatement à la conscience dans la réalité extérieure et que l'idée reste unie à son apparence extérieure, alors l'idée n'est pas seulement vraie, mais elle est belle. Je peux traduire de la philo, je ne peux pas traduire un poème. Je ne peux pas traduire un poème parce que dans le poème, l'idée est inséparable de la forme sensible. Alors que de la philosophie, je peux la traduire parce que la philosophie est, normalerweise, parfaitement séparable de sa forme sensible. Et c'est pour ça qu'elle peut être traduite d'une langue à l'autre, ce qui n'est d'ailleurs pas très difficile, alors que c'est extrêmement difficile, évidemment, pour la poésie, et même impossible, au bout du compte. Le beau se définit donc comme la manifestation sensible de l'idée. Mais en comprenant bien donc que là, nous sommes dans un intermédiaire. Si la beauté est dans l'art, deuxième partie, cela veut dire que cette beauté a une histoire, puisque l'art a une histoire. Les hommes ont produit des formes différentes au cours des siècles. Que signifie avoir une histoire ? Avoir une histoire, ça ne signifie pas qu'il y a une chronologie. Avoir une histoire signifie que dans cette chronologie, une logique est à l'œuvre. Dire que l'art a une histoire, ça ne veut pas dire que le romantisme suit le classicisme, parce que 1850 suit 1750. C'est vrai, 1850, vous avez bien compté, suit 1750. Mais le romantisme ne suit pas le classicisme comme 1850 suit 1750, car il faut comprendre que s'il y a une histoire, ça veut dire que le romantisme est le fruit et la mort du classicisme, et que le romantisme est l'avènement du classicisme et la révélation d'une vérité qui était déposée dans le classicisme et qui était encore obscure dans le classicisme. Et que donc avoir une histoire, c'est comprendre que dans la succession des phénomènes, une vérité advient, une vérité se met peu à peu au jour, et que cette succession donc ne fait pas simplement l'objet d'un récit, mais elle fait aussi l'objet d'une interprétation. C'est ce que nous faisons tous les jours hein, quand nous cherchons les causes de la guerre de 14 ou que sais-je. Et Et donc cela concerne évidemment l'histoire de l'art lui-même. Cette histoire de l'art, Hegel la distingue, comme toujours, en trois parties, parce que si vous avez compris en soi, pour soi, chez soi, vous pouvez refaire tous les chapitres de Hegel. C'est-à-dire que cette histoire de l'art, elle se distingue en art symbolique, art classique, art romantique chrétien. Trois étapes, art symbolique, art classique, art romantique chrétien, dans lesquelles vous retrouverez en soi, pour soi, chez soi. L'art symbolique, c'est l'esprit encore enclos en soi, encore enclos dans la matérialité des formes. L'art classique, c'est l'esprit qui prend conscience de soi en se séparant de lui-même par une idéalisation. L'art romantique chrétien, c'est l'esprit qui revient à soi en se comprenant lui-même, y compris dans sa particularité. Allons-y. Art symbolique. Pourquoi Hegel utilise-t-il le mot symbole ? Parce que le symbole, c'est justement l'idée dans la chose. Le symbole, si le lion est symbole de la force, c'est pas par convention, vous auriez de la peine à faire un symbole de la force avec un ver de terre. Si la rose est symbole de beauté, c'est pas par convention, vous auriez de la peine à faire un symbole de beauté avec un poireau. Vous pouvez toujours essayer. Bon, d'accord, je vois qu'il y en a qui y tiennent, je n'insisterai pas. Et donc, dans le symbole, précisément, la matière et l'esprit sont encore unis. Si bien que dans le symbole, l'esprit ne s'est pas encore complètement séparé de lui-même. Vous voyez, il faudrait distinguer le symbole, l'image et l'idée. Et donc le symbole, c'est l'idée dans la chose, enclose dans le sensible, à tel point qu'elle n'en est pas séparable, puisque je ne peux pas séparer la force et le lion. Alors, de telle sorte que cette première conscience que l'esprit prend de lui-même traduit aussi son obscurité à lui-même. Par exemple, la difficulté qu'il a à se distinguer de la matière. Et cette difficulté qu'il a à se distinguer de la matière va se manifester dans l'art qui, aux yeux de Hegel, est caractéristique de l'époque symbolique, c'est l'art égyptien. L'art égyptien est caractérisé par sa monumentalité, par ses dimensions, sa grandeur écrasante. C'est-à-dire tout se passe comme si l'esprit qui commence à s'éveiller ne pouvait s'éveiller à sa grandeur qu'à travers le caractère monumental de la matière. La stupéfaction de l'esprit face au caractère monumental de la matière, dans lequel l'esprit est encore étranger à soi, mais en même temps a une espèce d'intuition maladroite de sa grandeur. De la même manière, cette époque, qui est caractérisée par l'art égyptien, selon les schémas hegeliens que je simplifie, ne va pas hésiter à représenter la destinée de l'homme à travers des animaux. C'est-à-dire que là aussi, l'esprit est encore attaché à la nature. Et donc les Égyptiens vont représenter, et puis tous les peuples dits primitifs vont représenter les dieux à travers des animaux, des alligators, des ibis, des chiens, etc. L'esprit est encore enclos dans la nature, ne se distingue pas de la nature. Et même s'il y décrit une destinée humaine, il la décrit de manière confuse. Les gens qui disent que les hommes ont commencé à représenter les dieux comme des hommes n'ont vraiment aucune culture, car les hommes ont représenté les dieux comme des animaux. Et même des animaux horribles. Ils ont peur. Par exemple, Osiris. Le fond de cette histoire est en un sens d'abord seulement cosmologique et physique. En effet, Osiris, c'est d'abord le soleil. Donc, vous voyez, l'esprit se comprend à travers le soleil, à travers un oiseau. Son histoire est un symbole de la révolution annuelle de cet astre, puisque Osiris meurt et naît. Ensuite, il signifie la crue et la décroissance des eaux du Nil. D'un autre côté, Osiris représente aussi l'homme et son histoire. Il est révéré comme l'inventeur de l'agriculteur, c'est-à-dire l'homme se dépouille de ses propres inventions. Il l'attribue à Osiris. Il est considéré comme l'inventeur de la division des champs, de la propriété, des lois, et son culte se rattache ainsi aux événements de la vie humaine qui sont liés de manière étroite à la moralité et au droit. De la même manière, il est le juge des morts, et par l'air, là, il acquiert un sens qui se dégage complètement de la nature. Ici, l'esprit est considéré comme constituant l'essence de la forme, qui par conséquent commence à se représenter sa propre intériorité. Mais dans son développement progressif, il devient l'image de la vie cosmique, animale, et cela représente d'une manière toute extérieure. L'esprit est encore étranger à soi, confondu avec la nature. Voilà pourquoi, dans ce colossal, Hegel s'intéresse au cas des pyramides, image même de la colossalité de la matière, mais image aussi de son caractère hermétique. La pyramide n'a pas d'intérieur, ou à l'intérieur, il y a quoi ? Il y a la mort. On ne pénètre pas dans une pyramide. Donc l'esprit reste en quelque sorte extérieur à lui-même devant la pyramide, écrasé par elle, mais en même temps, donc, il reste à travers cette pyramide comme une énigme pour lui-même. Voilà pourquoi je suis obligé de passer vite, je peux revenir si vous voulez. Voilà pourquoi, aux yeux de Hegel, l'âge symbolique, donc, qui est bien caractérisé par l'art égyptien, montre que, au dernier terme, l'homme est une énigme pour lui-même, ce dont la représentation du sphinx est une bonne expression. Obscur à lui-même, effrayé par la puissance de l'esprit traduite par des forces naturelles écrasantes, muet devant cette énigme, c'est le dernier terme, parce qu'une histoire se succède comme une intrigue. Donc le dernier terme de cette intrigue, c'est effectivement donc celui de l'énigme du sphinx, dans lequel l'humanité s'interroge sur elle-même. On est bien loin de l'humanisme, de la compréhension de l'homme en lui-même. On est donc dans cet enfermement ou cette extériorité de l'esprit par rapport à la nature. Leurs monuments restent encore mystérieux et muets, sans voix et sans mouvement. Ici, l'esprit n'a pas encore trouvé la vie qui lui est propre. Il ne sait pas encore parler le langage clair et intelligible de l'esprit. Deuxième étape, ce que Hegel appelle l'âge classique. À ses yeux, de la même manière que c'est l'art égyptien qui est l'allégorie de l'âge symbolique, c'est l'art grec qui est l'allégorie principale de l'âge classique. Et si l'art égyptien est incarné par la monumentalité, l'obélisque, le temple, la pyramide, l'art classique grec est caractérisé par la sculpture. Sculpture dans laquelle, justement, on voit la deuxième étape, le pour-soi. C'est-à-dire l'esprit se pense lui-même en se séparant de la matière. Et l'esprit se pense lui-même en posant un idéal. Et cet idéal, il est manifesté par la statuaire grecque. Car la statuaire grecque ne représente l'homme que comme idéal, qu'au titre de l'idéal. Et si bien que c'est à la fois une conscience de soi et une séparation de soi, parce que cet idéal, évidemment, je ne le suis pas. Et Et l'âge classique, c'est l'âge parfait de l'harmonie de la forme et de la matière. Harmonie de la forme et de la matière, donc que la statuaire grecque exprime à travers le corps humain. Corps humain qui est la manifestation par excellence de l'esprit. Les dieux ne seront plus alors présentés à travers des monstres, des ibis, des crocodiles et des chiens, mais à travers un homme debout. La station debout, le visage, sont l'expression même de la vie de l'esprit et de la dignité de cette vie de l'esprit, enfin reconnue dans le divin. C'est-à-dire que la deuxième étape, c'est que l'homme se reconnaît dans le divin, mais dans le divin comme idéalisation de soi, perfection de soi, bien représentée donc par la statuaire grecque qui va exprimer de manière éminente la maîtrise de soi, le refus du trouble, le refus de l'émotion, l'harmonie. La statuaire grecque, nous dit Hegel, ne représente pas, se refuse à représenter les émotions. On ne va pas y représenter quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui s'effondre, quelqu'un qui souffre. On y présente l'homme maître de soi, l'esprit maître de la matière. Oui, première étape, c'est la matière maîtresse de l'esprit. Deuxième étape, c'est l'esprit maître de la matière qui, à travers le corps du dieu, car ce qui est montré, évidemment, ce n'est pas des réclames de parfumerie, c'est des dieux. Et donc, ce qui est montré à travers le dieu, c'est la prise de conscience de soi, de l'esprit dans cette perfection, qui exclut évidemment la représentation d'un quelconque abandon au sentiment. Mais, de la même manière que l'art égyptien touche à sa frontière avec l'énigme, eh bien, l'art grec, l'art classique, touche à sa frontière avec la mélancolie. Il y a une mélancolie de la beauté de la statuaire grecque. Dans son impassibilité même, dans sa perfection même, cette statuaire avoue que quelque chose lui manque. Avoue qu'elle n'est pas, en dépit de son idéalisation, dans la plénitude de la vie de l'esprit. Et alors cette mélancolie, c'est celle que Hegel décrit. Donc, c'est là ce souffle de tristesse au milieu de la grandeur que des hommes pleins de sagacité ont ressenti en présence des images des dieux grecs, malgré leur beauté parfaite et leur charme. Dans leur calme et leur sérénité, ils ne peuvent pas se laisser aller à la joie, à la jouissance. Le véritable contentement n'est autre chose que l'approbation intérieure que l'individu se donne à lui-même, à ses actions. Son dernier degré est ce sentiment bourgeois de contentement que tout homme ordinaire peut éprouver. Manifestement, les nudités grecques n'éprouvent pas des satisfactions bourgeoises bien simples. Ils ont l'air assez solitaires dans leur splendeur. Or, ce sentiment et son expression ne peuvent convenir aux dieux immortels. La beauté libre et parfaite ne peut se contenter de cet accord avec une existence déterminée et finie. Son individualité, bien qu'elle ait un caractère propre, ne se retrouve véritablement que comme universalité. C'est ce caractère de généralité dans les dieux grecs qu'on a voulu exprimer dans ce que l'on appelle la froideur. De quoi manquent les statuaires grecques ? De la personnalité. Elles sont impersonnelles. La statuaire grecque n'a pas l'idée de personne. Elle a l'idée de l'idéalisation de la forme. Mais elle n'a pas l'idée de la personne. Or, qu'est-ce que c'est que l'idée de la personne ? C'est précisément la présence de l'esprit dans la singularité. Donc, la statuaire grecque est idéalisation, mais elle ne comprend pas comment l'esprit peut être présent dans une singularité. Chez un clochard, chez mon voisin, chez moi, s'ennuient les statues grecques. On lit dans leurs traits le destin qui pèse sur leur âme. Et à mesure que leur puissance s'accroît, elle fait éclater de plus en plus cette contradiction entre la grandeur et la particularité. Évidemment, les statues d'Apollon ne sont pas des portraits. Donc on est, vous voyez, si vous avez suivi entre l'idée et la particularité. On est dans l'idée, mais on a perdu le rapport à la singularité matérielle et naturelle. Et la présence de l'esprit dans le portrait, la présence de l'esprit dans la réalité particulière, c'est ce qui caractérise l'art chrétien. Ce que Hegel appelle l'art romantique chrétien. L'invention du portrait est une invention chrétienne moderne. Avoir l'idée singulière de faire le portrait de quelqu'un, c'est très récent. Les Grecs ne font pas le portrait de quiconque, ils font une espèce d'idéalisation ou d'un archétype du philosophe, archétype de qui vous voulez. D'ailleurs, ils pouvaient changer les têtes des statues selon les péripéties politiques. Et voilà pourquoi, dit Hegel, donc, les statues grecques sont privées de regard. Les personnages de la statuaire de l'ordre le plus élevé sont privés de regard. En eux, l'intérieur ne perce pas en tant qu'intériorité qui se connaît elle-même. Cette lumière de l'âme leur vient du dehors. Elle ne rencontre rien qui lui réponde. Elle appartient au spectateur qui ne peut contempler le personnage, pour ainsi dire, d'âme à âme, d'œil en œil. Le dieu de l'art romantique, c'est-à-dire chrétien, est au contraire un dieu qui voit, qui se connaît, qui se saisit dans sa personnalité. Et voilà pourquoi, donc, du fait de l'incarnation du Christ, l'art romantique chrétien a pu représenter l'esprit dans un homme qui souffre, dans un homme blessé, dans un vieillard, dans une vieille femme, dans un clochard, dans la vie ordinaire. Vous reconnaissez la dialectique ? En soi, pour soi, chez soi. L'esprit se retrouve chez lui, mais l'esprit se retrouve chez lui quand il arrive à coïncider avec ici et maintenant la vie ordinaire dans sa singularité, dans sa personnalité. Et c'est ce que donc la foi chrétienne, témoignant de l'humanité pleinement réconciliée dans le Christ, peut par excellence manifester, de telle sorte que si l'art symbolique est caractérisé par le monument, si l'art classique est caractérisé par la statuaire, l'art romantique chrétien est caractérisé par la peinture, puis la musique, puis la poésie, dans lequel l'esprit est plus spontanément chez soi et dans lequel se manifeste l'union de l'intérieur et de l'extérieur. Oui. Union de l'intérieur et de l'extérieur qui est une énigme pour les Égyptiens, une mélancolie pour les Grecs, et qui est manifestée dans ce que Hegel appelle le contentement bourgeois, vous voyez, l'art hollandais. Ces bourgeois hollandais qui fument la pipe et devisent devant des portulans sur des tables familiales, voilà. L'esprit chez soi. Baizich. L'esprit revenu chez soi. Il n'a pas besoin de monuments qui l'écrasent, il n'a pas besoin de corps idéalisés. Le corps d'un bon gros fumeur de pipe ou buveur de bière lui suffit pour représenter l'esprit. Mais évidemment, ça n'est possible que par la compréhension de ce qu'est l'incarnation. Le vrai domaine de la peinture, c'est qu'elle est seule capable de représenter par la forme visible, en opposition avec la sculpture, la musique et la poésie. Or, c'est la concentration de l'esprit en lui-même. Il est refusé à la sculpture de l'exprimer, tandis que la musique, à son tour, ne peut aller jusqu'à la manifestation extérieure et que la poésie elle-même ne donne qu'une image imparfaite de la forme, la peinture, au contraire, est en état de réunir l'intérieur et l'extérieur. Elle peut exprimer dans l'extérieur la pleine intériorité. Elle doit donc s'en emparer. C'est, je le disais, donc l'apparition de l'art du portrait, c'est la possibilité de représenter Vierge Marie, le Christ, dans leur forme singulière et fragile. C'est aussi la possibilité de manifester le quotidien. Ce que Hegel appelle joliment le dimanche de la vie. Hegel évoque la peinture hollandaise en utilisant l'expression « le dimanche de la vie ». C'est-à-dire l'esprit réconcilié avec lui-même et avec donc l'usage des jours. Et non pas dans une fuite, non pas d'une séparation de soi dans un quelconque idéal. C'est l'infini dans le fini. Oui. Et en soi, pour soi, chez soi, c'est le moment où l'infini peut être enclos dans le fini. Et ça, c'est une des missions de la beauté. Que de montrer que l'esprit qui est infini peut être présent dans une réalité finie, pourvu qu'elle soit une œuvre de l'esprit. Et donc, ça n'est pas des réalités naturelles, des animaux fantastiques. Ça n'est pas des réalités idéalisées. C'est l'infini dans le fini, c'est l'infini dans ce buveur de bière, dans cette représentation de la Vierge Marie, d'une mère de famille, que sais-je. Par exemple, il y a de belles pages de Hegel, mais je dois aller vite, sur la différence entre le temple, égyptien et grec, et l'église. Parce que le temple n'est vu que de l'extérieur. Alors que l'église, elle est tout entière faite pour être vue de l'intérieur, même sa lumière n'est accessible qu'à celui qui rentre. Et donc, dans l'Église, il y a bien une réconciliation de l'infini et du fini, alors que dans le temple, le sens du sacré est manifesté dans une distance monumentale qui anéantit le sujet devant le caractère colossal et clos de la pyramide. Et donc, si je vois la différence entre la pyramide et l'Église, la pyramide est habitée par les morts, l'église est habitée par des vivants. Et la pyramide est élevée à l'extérieur de nous, l'église nous invite à l'élévation à l'intérieur même de cette église et à travers les ogives et les nefs élancées, de telle sorte que c'est ma propre personne qui habite cette église. C'est l'infini dans le fini. C'est l'accomplissement de la quête de l'esprit, qui n'a pas besoin d'aller chercher des trucs mystico-gélatineux, mais qui est là. Il suffit d'être là, à condition d'y être présent. Bon, il me reste à faire une troisième partie, donc, et pour une fois, je vais être long, excusez-moi. Normalement, j'essaie de respecter les horaires, là, j'aurai un peu de peine. Je suis désolé pour ceux qui... Mais ça va être difficile, parce qu'il y a tellement de choses, et puis c'est pas évident, Hegel. Encore, je vous fais du Hegel, bon, allégé, voilà, 0%. Car il faut aller, si l'art a une histoire, il a aussi une fin. Et s'il a une fin, il y a un au-delà de l'art. Alors, on le sait, enfin, vous ne le savez peut-être pas, mais pour Hegel, l'au-delà de l'art, c'est précisément la religion, puis la philosophie. Parce que je disais, dans l'art, l'esprit est encore uni à la nature, à travers les formes sensibles, les sons, les lumières, les couleurs. Dans la religion, l'esprit se perçoit à travers l'autre, donc il se sépare en quelque sorte de lui-même. Et dans la philosophie, l'esprit fait retour à soi. C'est le même mouvement, en soi, pour soi, chez soi. Si vous avez compris ça, vous pouvez lire toutes les pages de Hegel, elles sont toujours composées de la même manière. En soi, pour soi, chez soi. Et donc, si le beau est le vrai rendu sensible, si le beau est l'alliance du concept et de la singularité, toutefois, l'esprit n'est vraiment lui-même que dans le vrai, c'est-à-dire l'esprit n'est pleinement lui-même que dans la philosophie. Dans le beau, il reste lié à l'expérience sensible, inachevée, en train de s'exprimer, La religion, comme dans l'art classique, il prend conscience de lui-même en se mettant en dehors de lui-même, dans le divin. Jusqu'au moment où il comprend que ce divin qu'il a pensé, c'est aussi celui qu'il peut penser en lui-même, et que c'est la philosophie qui achève tout l'effort de la religion, et que c'est la philosophie qui va pouvoir interpréter la vérité de la religion. Voilà pourquoi il y a un au-delà de l'art, et que pour nous, même, l'art est une chose du passé. Alors là, je vais insister, et je suis désolé de devoir aller vite, sur l'aspect le moins souvent souligné de Hegel et cependant le plus passionnant. Alors je vais insister un peu, car Hegel nous dit, ben voilà, l'histoire est pour nous, l'art est pour nous une chose du passé. C'est-à-dire que nous n'éprouvons plus devant l'art les sentiments de l'Égyptien, les sentiments du Grec, ni même le sentiment du chrétien. Car l'art nous donne bien peu d'occasions de prier, bien peu d'occasions de contempler. Et au fond, il est une forme dépassée. Ce qui ne veut pas dire aboli, hein. Il y aura toujours des gens qui font de la peinture. Mais il est une forme dépassée de la quête de l'esprit, impuissante à lui apporter autre chose que des connaissances encyclopédiques. C'est peut-être pourquoi l'art est rentré dans les musées. Les musées, les grands cimetières. Et vous voyez des foules qui arpentent les musées d'un air grave, qui s'ennuient à mourir, mais qui prennent un air grave. Ils sont obligés de passer vite parce que sont les trop nombreux devant les tableaux, ne savent pas ce qu'elles voient, et tout cela n'est peut-être que un héritage d'un passé. Prenons au sérieux cette idée. Moi, je la prends au sérieux. Puis c'est intéressant de prendre un auteur au sérieux quand même, surtout quand il s'appelle Hegel. En général, dans le développement de chaque peuple, il arrive un moment où l'art ne suffit plus. Ainsi, les éléments historiques du christianisme, l'apparition du Christ, sa vie, sa mort, ont donné à l'art, notamment à la peinture, je l'ai indiqué, des multiples occasions de se développer. L'Église elle-même a grandement favorisé l'art. Mais lorsque le désir de savoir, ainsi que le besoin de recueillement, eurent amené la réforme, Hegel est protestant, la représentation religieuse fut dépouillée de l'élément sensible et ramenée à l'intimité de l'âme et de la pensée. C'est le protestantisme comme accomplissement du christianisme pour Hegel, et le protestantisme peut faire l'économie des formes sensibles et invite à ne reconnaître Dieu que dans la Bible et dans son cœur. Ainsi, l'après de l'art consiste en ce que l'esprit est habité par le besoin de se satisfaire lui-même, de se retirer chez lui, by sich. L'art, en ses débuts, laisse encore une impression de mystère et de secret, de regret aussi, parce que ces créations n'ont pas présenté intégralement à l'intuition sensible leur contenu dans toute sa richesse. Mais lorsque ce contenu entier trouve dans l'art une représentation entière, l'esprit qui regarde plus loin se détourne de cette forme, la rejette et rentre en lui-même. Bon, on fait toujours des tableaux, mais plus personne ne priera jamais devant un tableau. On fait toujours des tableaux, mais l'esprit n'y trouvera pas de quoi avoir l'intuition de son propre mystère. Il vaudra mieux pour lui faire de la science, de la philosophie. Et approfondissons donc cette idée. L'art est pour nous quelque chose du passé. De ce fait, il a perdu pour nous sa vérité et sa vie. Il est relégué dans notre représentation. Loin d'affirmer sa nécessité effective, ce que suscite en nous une œuvre artistique de nos jours, mis à part un plaisir immédiat, c'est un jugement. Étant donné que nous soumettons à un examen critique son fond, sa forme, leur convenance ou disconvenance. Le flot de textes et de critiques et d'analyses que suscite l'art montre que l'art est pour nous une chose morte. Les bibliothèques et les bibliothèques infiniment plus nombreuses que les tableaux montrent que pour nous, l'art est une chose morte et que finalement, il n'est recouvert que par des Niagara de commentaires. La science de l'art est donc bien plus un besoin de notre époque que dans les temps où l'art, avec naïveté au fond, donnait par lui-même pleine satisfaction. Nous n'avons plus le regard assez naïf pour que l'art soit encore pour nous une expérience spirituelle. Il n'a peut-être pas tort, Hegel. Ces pages, en général, on s'en détourne. On dit « Oh là là, Hegel, vraiment pas sérieux d'avoir dit ça. » Moi, je voudrais quand même me mettre à l'écoute de ce qu'il dit. Et le... En particulier, il dit deux choses. Il dit premièrement, et c'est pas faux, c'est même très juste, à partir du moment où l'art romantique chrétien a fait son travail, c'est-à-dire nous a montré la présence de l'esprit, l'inhabitation de l'esprit dans la singularité, alors tout objet peut devenir objet d'art. C'est bien ce qui se passe chez Baudelaire que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce qui se passe chez Flaubert. Lorsque Flaubert dit « toute chose regardée attentivement est belle », ça veut dire que tout peut devenir objet d'art. Je peux faire de ce livre, de ce stylo, un objet d'art. Et c'est bien ce qui se passe dans un certain nombre de, je ne sais pas comment appeler ça, d'œuvres de plasticiens contemporains. Puisqu'après tout, il y a autant d'esprit dans un clou rouillé que dans Mona Lisa. Et s'il y a autant d'esprit dans un clou rouillé que dans Mona Lisa, je peux exposer un clou rouillé, mais c'est un peu dérisoire d'exposer un clou rouillé, puisqu'à ce moment-là, c'est le socle qui fait l'œuvre. Ce qui est à peu près le statut de l'art contemporain. Et donc, à partir du moment où tout peut devenir objet d'une égale attention spirituelle, l'art n'est plus nécessaire. J'aime assez cette idée que l'on puisse se passer de l'art pour regarder le monde. À partir du moment où l'art nous aura appris à voir l'esprit en chaque chose, je peux dire aux toiles, aux poèmes et aux musiques, écartez-vous de mon soleil, et regardez chaque chose dans sa singularité et sa beauté. Comme une initiation dépassée, car au fond l'idéal de l'art c'est de se dépasser. Malheur à celui qui resterait dans un musée ou dans une salle de cinéma. À la rigueur, si mon regard s'est affiné dans un musée, c'est pour mieux regarder les choses en dehors de moi, y compris le clochard qui est mon voisin. Et celui, l'esthète, c'est celui qui resterait précisément dans l'œuvre d'art, comme si elle était elle-même porteuse de vérité. Mais l'œuvre demande à être dépassée, ou alors c'est une œuvre d'esthète, c'est pas une œuvre d'artiste. Et si elle est dépassée, elle est dépassée à tout point de vue, c'est-à-dire en ce sens qu'elle n'est plus elle-même porteuse de vérité. Si bien que Hegel nous dit deux choses, donc d'une part, tout peut devenir objet d'art, y compris l'accidentel, le vulgaire, et si tout peut devenir objet d'art, l'artiste alors ne devient plus une figure dominante. Puisqu'il ne va plus faire valoir, le génie qui pourtant nous apparaissait comme celui en qui l'esprit transparaît n'est plus nécessaire puisque tout objet est présence de l'esprit. Et c'est à peu près ce qui se passe, semble-t-il. Il y a une remarque encore plus profonde de Hegel, et je terminerai par là, et lui termine par là, c'est les dernières pages de l'esthétique de Hegel. Personne n'y fait attention, on ne les aime pas ces dernières pages. Je vais vous les communiquer cependant. Car voilà, Hegel nous dit, ben voilà, l'art est une chose du passé, c'est fini. Et ce qui le prouve, c'est l'introduction de l'humour, du comique. Parce que le comique... C'est justement ce qui permet à l'esprit de s'assurer de lui-même, de s'assurer de sa propre supériorité en mettant en lumière ses contradictions. Qu'est-ce que le comique ? Le comique, c'est la mise en lumière des contradictions. Le professeur de vertu prit la main dans le sac. C'est comique. Et cette mise en lumière des contradictions, elle est comique à condition que l'esprit lui-même soit assuré de sa propre supériorité. Car si je suis moi-même professeur de vertu, susceptible d'avoir la main dans le sac, je suis embêté. Je rigole pas. Donc le comique, c'est la supériorité de l'esprit posant la contradiction. Anéantissant, en quelque sorte, la contradiction, abolissant cette contradiction par sa propre position. En disant cela, Hegel est contemporain des romantiques. Car vous le savez, et nous sommes encore dans le romantisme est caractérisé par la coexistence de la sentimentalité et de l'ironie. Nous en sommes encore là. Nos adolescents en sont encore là. Mais nous aussi, car nous sommes toujours adolescents, et de plus en plus. Et donc cette coexistence de la sentimentalité et de l'ironie tient au fait que l'esprit devient observateur de lui-même. Comme refroidi par cette observation. Ça se voit bien dans l'œuvre de Flaubert. Si Flaubert est si méchant pour ses personnages, et si Flaubert n'arrête pas de tourner en ridicule la sentimentalité sirupeuse de ses personnages, c'est parce qu'il est lui-même dans une position ironique à leur égard, et qu'au fond, la position de l'esprit devient celle du comique qui dilue l'importance des contradictions. Et nous en sommes à peu près là, dans cette coexistence d'une sentimentalité sirupeuse. « Ah, je suis ému », et d'une ironie constante, puisqu'on est constamment obligé d'avoir l'air de rigoler, même moi. Nous subissons deux injonctions, il faut être rigolo et il faut pleurer. Et c'est vraiment, vous n'avez qu'à voir, toute la journée vous subissez ces deux injonctions. Moi, je passe ma vie à parler en public. Je sais très bien que si je ne suis pas rigolo, je ne passe pas. Vous croyez que j'ai envie d'être rigolo, moi ? Ah, voilà, ça marche. Et donc, il faut que je sois rigolo. Mais c'est une honte. Parce qu'à mesure que je suis rigolo, en fait, je vaporise ce que je dis. J'en retire l'importance. Ah, c'était pour rigoler qu'il le disait. Alors, faudrait peut-être que je pleure, que je vous dis « je suis ému ». Ça, c'est absolument dégoûtant. Mais enfin, bon, tout le monde est ému, vives émus. Et le romantisme, lisez n'importe quelle page de romantisme, Benjamin Constant, tout ce que vous voulez, le romantisme, c'est toujours le constant commentaire de la sentimentalité par l'ironie. Avec une petite musique intérieure, qui redouble la sentimentalité et en montre l'insignifiance. Bon, c'est peut-être là qu'on en est. Vous ne me croyez pas. La preuve en est que les pauvres gens qui arpentent des expositions d'art contemporain ne trouvent pas mieux à dire que c'est rigolo. À la rigueur, s'ils veulent avoir l'air d'expert, ils disent c'est intéressant. Mais parce que l'art contemporain met bien en évidence le fait que tout est objet d'art et que toute contradiction peut se contempler de manière ironique. Et la contradiction ultime, c'est celle de la matière et de la forme. Et l'art contemporain nous met sans cesse dans la contradiction de la matière et de la forme en nous montrant des tas de charbon, des tas de sable, des tas de ce que vous voulez, des tas d'excréments, des tas de toutes choses. L'humour ne se propose pas de laisser un contenu se développer conformément à sa nature. C'est au contraire l'artiste lui-même qui s'introduit dans l'objet qu'il veut représenter. Sa tâche consiste principalement à repousser tout ce qui tend à obtenir ou paraît avoir une valeur, à l'éclipser et l'effacer par sa puissance. Donc dans l'humour, l'artiste se montre supérieur à tout ce qui peut être la puissance même de l'objet. Par là, le caractère indépendant d'un contenu objectif, l'unité cohérente de la forme qui dérive de la chose même, sont anéantis et la représentation n'est plus qu'un jeu de l'imagination. C'est rigolo. Qui combine à son gré les objets, altère et bouleverse leur rapport. Un dévergondage de l'esprit. On est en 1830. un dévergondage de l'esprit qui s'agite en tous sens et se met à la torture pour trouver des conceptions extraordinaires, pour lesquelles l'auteur se trahit, lui et son objet. Ou encore, mieux, le but de l'art, c'est de représenter aux yeux et à l'imagination l'identité de l'idée et de la forme. C'est la manifestation du divin, de l'éternel, du vrai. Or, si maintenant la comédie ne représente cette unité que comme se détruisant elle-même, si le vrai absolu qui cherche à se produire et à se réaliser voit cette réalisation elle-même anéantie, alors la vérité n'apparaît plus présente et vivante, dans un accord positif avec les caractères et les fins de l'existence réelle, elle ne peut plus se faire valoir que sous une forme négative, l'ironie. Ainsi, alors, je n'ai pas besoin de vous montrer du doigt les plus grands auteurs que nous ayons, Kundera ou Houellebecq, ils ont parfaitement compris ça. Si Houellebecq est notre grand auteur, et je tiens que c'est le plus grand auteur que nous ayons, c'est parce qu'il a parfaitement compris ça. Que l'esprit maître chez soi n'a plus d'autre possibilité que de donner leur congé à toute prétention esthétique et afin de témoigner de sa supériorité par rapport à ces formes et à cette alliance de la forme et du contenu, de telle sorte que si l'esprit veut être chez soi, si l'esprit veut être accomplir sa liberté, ça ne sera peut-être pas dans l'art qu'il le fera, puisque celui-ci appelle à son propre dépassement. Avant d'écarter l'idée de Hegel, il faut prendre le temps de l'écouter. C'est ce que nous avons fait. On a un peu de temps pour... Non, on n'a pas de temps du tout pour échanger, mais on échange quand même. Je suis très, très en retard. Normalement, j'envoie des semonces aux personnes qui terminent après 21h30. Donc, je m'enverrai à moi-même une semonce. C'est promis. Deux questions. C'est l'esprit qui pense. Est esprit le mouvement de devenir soi-même? Est esprit celui qui devient lui-même à travers un effort de pensée? Donc, la pensée est une manifestation de l'esprit, mais dans la pensée, l'esprit est chez soi, puisque l'objet auquel il a affaire n'est plus extérieur. Mais reprenez l'image que je donnais tout à l'heure, qui me semble assez juste, de l'expression. J'ai en moi une idée que j'arrive pas à exprimer, j'ai une intuition en soi. Je l'exprime pour soi. Quand cette expression est juste, elle revient à moi, chez soi. Et donc ça, c'est le mouvement propre à l'esprit, dont la pensée est le moment ultime, puisque « Was ich nur meine ist mein », seul ce que je pense est mien. Seul ce que je pense est mien, parce que le reste est dans l'extériorité des circonstances, la liberté ne s'accomplit que dans la pensée. Et c'est pourquoi l'art reste une forme de l'esprit en soi, c'est-à-dire encore attaché à la sensibilité. La religion est une forme de l'esprit pour soi, c'est-à-dire qui s'exprime, sort de lui-même, pose son altérité, et la philosophie est la forme ultime de l'esprit chez soi, c'est-à-dire de l'esprit comme liberté et comme pensée. Deuxième question. Alors après, mais là ça nous embarquerait beaucoup trop loin, parce que évidemment je vous vois venir, vous dites s'il y a un mouvement et s'il y a une fin à chaque étape du mouvement, quelle est la fin de la dernière étape? Cette fin de la dernière étape chez Hegel, c'est la réalisation de l'esprit absolu qui parvient à la liberté parce que plus rien ne lui est extérieur, il est totalement chez soi, devenu maître de cette nature. Pour nous, ça prend la forme de la fin de l'histoire. C'est-à-dire le fait que, non pas qu'il n'y aura plus d'hommes, non pas qu'il n'y aura plus d'événements, mais que nous n'aurons plus besoin de ces événements pour devenir nous-mêmes. Quand Hegel parle de la fin de l'histoire, ça veut dire que nous n'aurons plus besoin de la guerre, des conflits, de l'économie, etc., pour devenir nous-mêmes. Pour l'instant, on en bave, hein, on a les bras dans le charbon. Hein. On est encore dans l'histoire. Mais s'il se fait un progrès à travers tout cela, c'est dans la mesure où l'esprit s'y connaît de plus en plus lui-même, l'esprit de plus en plus lui-même est de plus en plus réconcilié avec lui-même, il n'a plus besoin de ce dur combat contre la nature et contre l'autre, c'est la fin de l'histoire.